Les conversations de Réor. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces deuxièmes conversations de Réor. Je suis Gabriel de Richaud et nous avons décidé de parler, d'évoquer un sujet assez particulier qui est apprivoiser l'incertitude. C'est devenu un lieu commun aujourd'hui de dire que nous devons manager en un environnement incertain et nous ressentons cette incertitude de plus en plus fortement du fait déjà de notre hyper-connexion au monde. Le moindre tremblement, la moindre trépidation dans le monde, nous la ressentons immédiatement. Cependant, aujourd'hui, force est de constater que l'incertitude devient de plus en plus palpable, en tout cas par rapport à cette période que nous vivons, et aussi à tous les niveaux de la société, du citoyen jusqu'au plus haut niveau de l'État. L'incertitude est partout, le questionnement est constant. Pour en parler aujourd'hui, je suis en compagnie de Jérôme Carpe. Bonjour Jérôme.
Bonjour Gabriel.
Vous êtes PDG de Réor, l'atelier des transitions, vous êtes ingénieur, vous intervenez auprès des directions générales ou opérationnelles en conseil stratégique et développement du leadership. Vous êtes, entre autres, co-auteur du livre « Faciliter vos prises de décision » paru en 2015 chez ESF Éditions. À quoi songez-vous, Jérôme Carpe, lorsque vous pensez à la situation actuelle ?
Écoutez, je pense que la situation actuelle, bien évidemment, est source de beaucoup de craintes et de peurs chez beaucoup de nos concitoyens. Je pense qu'elle recèle également des opportunités de création, d'innovation. On l'a vu pendant la période de confinement, où de manière assez spontanée, beaucoup d'individus ont eu des idées nouvelles et ça a donné lieu. Alors, il peut y avoir des orchestres de balcon, des choses comme ça, mais bien au-delà, même dans les organisations et dans la sphère professionnelle, on a pu voir apparaître des façons nouvelles de travailler, de s'organiser, de donner de la capacité d'initiative et d'autonomie au plus près du terrain. Donc je pense que, bien sûr, la crise a pu être catastrophique pour certains, bon, bien évidemment ceux qui ont été touchés par la maladie, elle est catastrophique également sur le plan économique pour beaucoup d'acteurs, mais au-delà de ça, je pense qu'effectivement, elle a été libératrice d'énergie, et je pense que pour certaines organisations, il n'y aura pas de retour en arrière. Il y a une sorte d'effet de cliquet, si vous voulez, et je pense qu'effectivement, certaines entreprises, certaines organisations pourront tirer un enseignement et un bénéfice à long terme de cet épisode que nous venons de vivre.
Pourtant, l'incertitude a mauvaise presse. On cherche en général à la réduire et à la maîtriser. Vous dites que cette incertitude est source d'innovation. Comment on peut allier ces deux facettes, finalement, de l'incertitude ?
Oui, alors, c'est vrai qu'il y a une notion ambivalente. L'incertitude est ambivalente. D'une part, on voudrait avoir une sorte de garantie absolue quant à l'avenir. On espère avoir un CDI ou un statut qui va nous protéger, qui va protéger chacun et lui garantir d'une certaine manière un emploi à vie. Ça, c'est quelque chose que l'on a au fond de nous, c'est le besoin de sécurité. Et en même temps, une aspiration à vivre à plein poumon, à s'extraire d'une routine qui est parfois difficile à porter et à vivre une vie plus audacieuse. Donc il y a cette ambivalence dans l'incertitude. Alors, elle est porteuse d'innovation parce que elle constitue, si vous voulez, un bouleversement, un renversement. Schumpeter, l'économiste autrichien, écrivait « Le nouveau ne sort pas de l'ancien, mais apparaît à côté de l'ancien. » et lui fait concurrence jusqu'à le ruiner. Et donc, oui, cette période que nous vivons, ce confinement-là, dont nous sortons à peine, sont riches d'enseignements, d'innovations, je vous le disais, sur l'organisation du travail, sur les processus décisionnels, sur l'exercice même de la responsabilité managériale. Nous avons pu observer, chez Réor, auprès de nos clients, un certain nombre de managers nombreux qui ont changé de posture, qui ont adopté une posture de facilitation vis-à-vis de leurs collaborateurs, et qui ont peut-être accepté aussi, plus facilement qu'à l'ordinaire, la prise d'initiative, le droit à l'essai, le droit à l'expérimentation. Et cette notion de subsidiarité au plus près du terrain, je pense qu'effectivement, ça a pu être une innovation pour certains, mais j'imagine difficilement un retour au mode de fonctionnement antérieur. Alors il y aura sûrement des rééquilibrages à opérer, mais je pense que cette autonomie acquise, elle va sans doute rester, et les managers voient bien qu'ils y ont également un intérêt.
Alors, Jérôme, j'aimerais vous interroger encore plus spécifiquement sur vous, votre rapport à l'incertitude et vous, votre rapport justement au management. On se souvient, je me souviens et on se souvient les autres consultants de Réor, de notre première visioconférence ensemble. L'annonce venait juste d'être faite, c'était mi-mars. Le confinement, on était tous sous le choc, les consultants, et on a eu cette première visioconférence avec vous, Jérôme, et en interrogeant les autres consultants, tout le monde en a gardé un souvenir assez commun d'une mise en confiance, de quelque chose qui était, après cette réunion, qui nous a tranquillisés, alors qu'il n'y avait pas forcément de réponse qui était donnée, mais ça nous a tranquillisés, ça nous a donné envie de travailler, justement, d'être innovant, de créer des nouvelles formes. La question que je vous pose, c'est cette prise de parole, cette première prise de parole, dans cet état fébrile où nous étions. Comment l'avez-vous préparé? Est-ce qu'il y avait une intention? L'avez-vous préparé déjà? Est-ce qu'il y avait une intention particulière? Et quels étaient les grands axes pour vous?
Alors, oui, déjà, j'aimerais vous dire que pour moi, l'incertain, le doute me conviennent bien. Pour moi, ce n'est pas synonyme d'indécision, loin de là. Mais pour moi, l'incertain, c'est l'aiguillon de la curiosité. Et j'estime que très souvent, quand on est dans la certitude, on n'est pas loin du dogme, de la doxa. Et parfois, certains pensent détenir une vérité absolue. Alors que l'incertitude permet peut-être d'élargir les possibilités, la possibilité de rêver, d'imaginer, de créer. Alors, pour répondre plus spécifiquement à votre question... Il y avait quand même quelques signes avant-coureurs. L'interdiction des grands rassemblements, manifestations sportives, etc. C'est-à-dire qu'avant la prise de parole du président de la République le 16 mars, on avait déjà quelques signaux, plus que faibles. Et donc, je m'étais préparé intérieurement à cette prise de parole. D'accord. La prise de parole, effectivement, je sentais qu'elle était importante pour donner à l'ensemble de notre collectif... La certitude que nous avions un moyen d'être utile à nos clients dans cette période-là. Donc bien évidemment, le premier point, c'était d'assurer la sécurité et la santé de tous, ça c'était évident, mais ensuite, la possibilité également d'imaginer des modes d'action qui puissent répondre très vite. La rapidité, là, était importante, de répondre très vite aux besoins qui allaient émerger. Nous savions qu'un certain nombre de nos clients, un certain nombre d'organisations allaient se retrouver un petit peu désemparés. On connaît bien cet effet de sidération dont on a déjà parlé. Et du coup, on a voulu aller vite pour proposer des solutions à distance, donc que ce soit des classes virtuelles, du coaching à distance, des capsules de e-learning, des choses comme ça, des webinaires spécifiques. Et du coup, le fait de pouvoir mobiliser tout le collectif de Réor sur des actions à court terme, ça a évité une période de flottement. C'est ça que je voulais éviter, que chacun trouve sa place dans le collectif et qu'on n'entre pas dans une période de flottement. Après, je pense quand vous parlez de ce souvenir commun, ça a été effectivement un temps fort, mais dans lequel chacun a pu s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a aussi eu ce tour de table où chacun a fait peur de ses difficultés personnelles, économiques, etc., ses craintes, ses peurs, et on s'est vraiment serré les coudes. C'est-à-dire que très vite, Réor a fait les démarches pour obtenir un prêt garanti par l'État, donc un dispositif qui fait que globalement, on a quand même sécurisé l'économie du pays. On a obtenu ce prêt, et donc notre trésorerie pour les mois difficiles étant assurée, on a pu se consacrer pleinement, et l'esprit libre, je dirais, sur notre tâche qui était de répondre au plus près aux besoins de nos clients.
Alors je vais revenir encore plus spécifiquement par rapport à cette prise de parole, essayer de voir pour un manager qui nous écoute par exemple et qui voit qu'il y a une prise de parole qui a bien marché, qui a bien fonctionné, qui a bien soudé le collectif. Est-ce qu'il y avait un plan? Est-ce que c'était écrit? Est-ce que c'était préparé mais quand même improvisé dans la prise de parole? Est-ce que donc là moi j'entends cette idée de rassurer par des actions pour chacun, d'avoir laissé chacun aussi lui avoir laissé la possibilité de s'exprimer. Est-ce qu'il y avait un plan particulier? Est-ce que c'était écrit?
Là, vous me posez des questions très, très personnelles. On rentre dans les secrets de fabrication.
C'est
là.
Ça, exactement.
Alors, moi, j'aime bien donner le sentiment d'improviser quand tout est écrit.
D'accord.
Donc, en fait, pour tout vous dire, tout était écrit au mot près.
D'accord.
J'ai passé la nuit précédente. Mais en revanche, je me laisse toujours de la liberté par rapport au texte écrit, en fonction de ce qui est ressenti, de ce qui se dit, de ce qui se vit avec le collectif. Mais moi, j'ai besoin, ça c'est personnel, j'ai besoin d'avoir mis noir sur blanc mes idées pour être sûr de rien oublier, pour dire les choses également dans le bon ordre. Et là, l'enjeu était, pour une petite structure comme la nôtre, l'enjeu était de taille. Donc voilà, je ne voulais pas me permettre d'oublier des éléments importants. Et comme vous le disiez, il fallait aussi impacter. Et là, le manager a un rôle important d'influence.
Choisir, décider dans l'incertitude, on dit que choisir c'est rationnel et décider c'est accepter cette incertitude. Comment on décide dans l'incertitude?
Je pense que la première des choses que l'on essaye de faire, c'est de réduire l'incertitude. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont quasiment certains, d'autres probables, d'autres possibles? Déjà, avec une grille d'analyse comme celle-ci, on peut essayer de réduire l'incertitude, je ne dirais pas de manière probabiliste, mais en se disant, voilà, il y a quand même plus de chances que ceci ou plus de chances que cela. De ce point de vue, c'est assez rigolo de voir rétrospectivement l'analyse des chroniqueurs politiques français au moment de l'élection américaine de novembre 2016, où on retrouve des dizaines de manchettes de journaux où tout le monde disait que l'élection de Donald Trump était absolument impossible. Donc c'est intéressant de... Quand on élabore ce type de grille, de penser que l'improbable est malgré tout envisageable, ou doit être envisagé. Donc je dirais que ça c'est le premier point. Ensuite, donc, je pourrais le relier à l'absence de déni, si vous voulez. Surtout ne pas entrer dans un déni parce que ce scénario ne nous plaît pas. Ensuite, la prospective peut vraiment nous aider à construire des scénarios et des scénarios alternatifs. Voilà. Est-ce que je peux construire un plan A, un plan B, un plan C et me dire que, bon voilà, si tel scénario devient le plus probable, eh bien, je jouerai mon plan A, mais j'ai quand même des marges de manœuvre pour me réorienter ou pour garder de la flexibilité. Je dirais que je serai vraiment le plus à l'aise en tant que manager pour décider dans l'incertitude si je peux conserver des marges de manœuvre ou si j'ai la possibilité de transformer certaines contraintes en opportunités. Là, la contrainte de la distance physique, bien évidemment, a amené un certain nombre d'organisations à développer des compétences en télétravail, mais aussi en visioconférence. C'était très rigolo, les petites vidéos qui circulaient au tout début du confinement, où les gens réglaient mal leur caméra, ne réglaient pas leur son, ne voyaient pas qu'ils étaient filmés, etc. Ça donnait lieu à quelques scènes cocasses. Mais au final, on voit bien que maintenant, on a des compétences très largement répandues sur les outils numériques et pas seulement les outils de communication à distance. Donc, décider dans l'incertitude, je dirais que c'est vraiment être au plus près de la réalité, analyser et essayer de réduire cette incertitude et construire plusieurs scénarios pour être à l'aise, le plus à l'aise possible, avec le maximum de marge de manœuvre possible en fonction des scénarios qui vont se jouer. C'est ce que nous faisons d'ailleurs actuellement en cas de deuxième vague. Là, on voit bien que les efforts se relâchent un petit peu, peut-être. Le dit confinement, on est dedans maintenant. Personne ne peut dire, aucun scientifique aujourd'hui ne peut dire ce qui va se passer en septembre. Là, très récemment, on voit que Pékin reconfine, ou en tout cas prend des mesures drastiques. Donc, effectivement, le scénario d'une deuxième vague et d'un reconfinement est envisageable. En tout cas, chez nous, il est sur la table. Et donc, on s'y prépare tout en préparant le scénario d'un retour à un mode, je dirais, présentiel plus habituel.
Donc il y a la recherche d'informations, la prospective, il y a aussi, on le voit chez Réor, la diversification aussi de ce qu'on peut proposer, qui fait partie aussi des propositions dans l'incertitude, diversifier les propositions, les prototypes.
Oui, c'est très vrai, effectivement. Et là, c'est typiquement comment transformer une contrainte en opportunité. On a développé, par exemple, des ateliers collaboratifs en ligne, sous la contrainte, je dirais, qui mixent plusieurs outils, des outils de communication à distance, mais aussi des outils d'idéation, enfin de créativité, si vous voulez. Et du coup, ça peut permettre à des managers qui ont des équipes distantes et qui sont régulièrement à distance, de les associer peut-être beaucoup plus fréquemment et efficacement à des recherches de résolution de problèmes ou d'évolution, etc. Je pense à des équipes qui ont des filiales à l'étranger, des équipes lointaines, sur l'évolution de la gamme de l'offre. On pourrait tout à fait, avec ces outils collaboratifs en ligne, les associer de manière très efficace. Et donc, effectivement, on a aussi joué la carte de cette diversification et d'essayer, là aussi, de répondre à des besoins sur lesquels on ne s'était pas penché ou peu penché jusqu'à maintenant.
Après cette période où on a dû s'adapter énormément, développer nos capacités d'adaptation, est-ce que l'adaptation, on en parle depuis longtemps dans les accompagnements au changement, est-ce que vous avez aujourd'hui une nouvelle vision, une nouvelle définition de ces capacités d'adaptation?
Je vous répondrai peut-être en disant que on a vu peut-être chez nos clients des gens qui s'adaptaient plus facilement que d'autres, dans la mesure où ils étaient peut-être plus entraîné. Alors, certains avaient déjà l'expérience du télétravail, avaient déjà aussi l'expérience d'équipes très autonomes, d'autres moins. Pour certains, le fait de quitter le lieu de travail et de se retrouver en télétravail, ça a vraiment été un choc brutal et pas du tout préparé, même en termes d'équipement informatique. Mais ce qu'on observe, c'est que plus les équipes ont l'occasion d'expérimenter des adaptations à des nouvelles formes de travail, d'organisation, nouveaux outils, etc., plus évidemment elles développent leur capacité d'adaptation et elles ont pu montrer une très forte réactivité. Ça, on l'a bien senti chez certains clients. Ça renvoie d'ailleurs à une autre thématique, et celle de l'improvisation, ce que l'on dit chez Réor, où on plaide pour le développement d'une compétence d'improvisation managériale, qui est une façon de répondre à l'incertitude, et où on dit que l'improvisation, finalement, ça se provoque. Il faut mettre ses équipes en situation d'improvisation pour pouvoir, le moment venu, le jour venu, avoir d'une certaine manière et des réflexes et une confiance en sa capacité de faire face à cet imprévisible, à cet improbable qui devient réalité.
C'était ma question suivante, merci. C'était comment on s'entraîne à l'adaptation par l'improvisation, par la créativité, par le travail de la créativité qui est extrêmement présent. Tout à l'heure, on parlait de confiance. Comment vous définiriez la confiance qu'on peut accorder à son manager ?
Je dirais que déjà, la confiance, c'est clairement une relation. Donc, elle est dans les deux sens. J'aurais tendance à dire en préalable que la confiance, on la voit souvent comme un monolithe, comme un bloc, en disant un tel est digne de confiance ou n'est pas digne de confiance. Je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça. On peut faire confiance à son manager, comme un manager peut faire confiance à ses collaborateurs, sur un certain nombre de domaines, tout en sachant qu'il y a peut-être des limites sur d'autres éléments. Ce n'est pas un monolithe. La confiance, elle ne se donne pas ou elle ne se reprend pas comme un bloc tout entier. C'est plus fin que ça. Alors, ensuite, les situations extraordinaires, comme celles que nous venons de vivre, permettent également de révéler certaines facettes des uns et des autres. On a eu des managers aux abonnés absents, mais alors complètement absents. J'ai entendu des situations où certains managers n'ont pas pris contact avec leurs équipes pendant 2 mois, ni pour prendre des nouvelles, ni pour donner des consignes, ni quoi que ce soit. Sans être malade, parce que bien évidemment, il pourrait y avoir des circonstances exceptionnelles. Donc on a des gens qui ont été aux abonnés absents, et là, je leur souhaite vraiment bien du courage et bien de la chance pour reprendre ou reconquérir une légitimité vis-à-vis de leurs équipes. À l'inverse, d'autres managers ont été au front, en permanence, ont fait des tâches auxquels ils n'étaient pas habitués, et pour lesquels ils sont pas rémunérés habituellement, mais ils ont pris, voilà, ils ont pris le manche, ils ont fait, voilà. On l'a vu à l'hôpital, notamment, où vous avez des personnels administratifs de l'hôpital qui ont épaulé les aides-soignants, les aides-soignantes, etc. Et ça, on l'a vu, je dirais, dans beaucoup d'organisations. Donc c'est vrai que ces situations exceptionnelles sont des révélateurs et peuvent renforcer, consolider la confiance parce qu'on a joué la solidarité, parce que le manager a pu jouer autant que faire se peut la transparence, l'exemplarité. Donc ça peut être des révélateurs dans un sens très positif, mais à l'inverse, il y a des équipes que l'on récupère un peu chaos parce que justement le management n'a pas été à la hauteur de la situation.
Mais justement, où est-ce qu'on peut apprendre ça ? Où est-ce qu'on peut aujourd'hui se confronter au risque, à la peur, à la maîtrise de ce risque, au dépassement de cette peur ? Où est-ce qu'on s'entraîne à l'audace ? Où est-ce qu'on apprend à improviser, comme vous disiez ?
Aujourd'hui, nulle part. En tout cas, pas dans les formations des managers, je dirais, ni même des cadres dirigeants. Vous savez, la culture du doute n'est quasiment pas enseignée, à part peut-être en fac de philo, mais elle n'est pas favorisée, cette culture du doute. Dans l'apprentissage des sciences qu'on dit exactes, on nous apprend à trouver la solution au problème posé. On remet pas ou rarement en question la pertinence du problème ou de la question posée. On se dit pas, bon, ben, y a une solution, il y en a peut-être d'autres. Très souvent, on est dans une logique d'apprentissage problème-solution. Et donc, on ne pousse pas à chercher, on ne pousse pas à questionner le bien fondé, la pertinence. D'ailleurs, quand vous regardez tous les outils de pilotage de la performance, très souvent, qu'est-ce que l'on mesure ? On mesure l'efficacité et l'efficience. C'est-à-dire, est-ce que j'ai atteint l'objectif que j'avais visé et combien de ressources j'ai consommé pour atteindre cet objectif. Donc on est sur des notions, des indicateurs d'efficacité, d'efficience. Mais la pertinence des moyens que l'on a mobilisés au regard de l'objectif, elle est très rarement questionnée. Et je dirais que là, pour répondre à vos questions sur où est-ce qu'on apprend l'audace finalement, c'est dans les organisations qui poussent à ça. Alors c'est dans la vraie vie, bien sûr. Chacun, dans son parcours individuel, peut faire preuve à tel ou tel moment d'audace et de prise de risque. Mais je dirais que c'est vraiment aux organisations de faciliter cet apprentissage. Je dirais qu'une clé dans cet apprentissage se trouve dans ces entreprises, ces organisations qui responsabilisent leurs collaborateurs, qui vont leur donner beaucoup d'autonomie, qui vont autoriser le droit à l'essai, à l'expérimentation, qui vont encourager la prise d'initiative. Alors ces entreprises, on les qualifie souvent d'apprenantes ou d'entreprises libérées. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble très important de donner de créer ces situations où on va donner de l'autonomie et sans la reprendre dès qu'il y a le moindre dysfonctionnement. C'est ça l'enjeu. Une autre clé, à mon avis, se trouve dans la formation des cadres dirigeants et dans leur préparation à exercer le pouvoir. À exercer le pouvoir, à exercer l'autorité, sans abuser de ce pouvoir, sans abuser de cette autorité. Et là, en fait, il y a peu de préparation, il y a peu de réflexion. Est-ce qu'ils vont exercer un pouvoir sûr ou un pouvoir de, comme dit le philosophe André Comte-Sponville, donc pouvoir sur les collaborateurs, ou pouvoir de changer une organisation ou une culture managériale. Et vous voyez, la différence fondamentale qui existe entre un cadre sup et un dirigeant, c'est que le cadre sup, on lui donne finalement le périmètre dans lequel il va pouvoir exercer ses responsabilités. Alors que le dirigeant, c'est à lui qu'appartient de définir le champ sur lequel il va investir son talent, son leadership. Et d'ailleurs, vous le savez, Réor a conçu un programme pour dirigeants et futurs dirigeants qui s'intitule Alter Leadership. Et comme son nom l'indique, Alter Leadership, c'est la conduite responsable de changement responsable. Donc on s'interroge beaucoup sur la pertinence, le bien fondé, on s'interroge beaucoup sur quels outils de créativité pour se préparer à l'improvisation, pour se préparer à affronter l'incertitude. Et donc, peut-être que vous connaissez cette phrase de Marc Aurèle. Marc Aurèle écrivait que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et pourquoi j'aime autant cette phrase ? C'est parce que, grosso modo, il nous dit faut choisir ses combats. C'est à nous de choisir nos combats. Et j'aime l'idée, en fait, de libre arbitre et de liberté que sous-tend cette citation.
Jérôme Carpe, vous me parliez en off tout à l'heure d'une chanson de Brassens qui s'appelle « Les oiseaux de passage » sur un texte de Jean Richepin. Pourquoi cette chanson, et surtout en ce moment, pourquoi cette chanson vous touche ?
Elle me touche parce que, comme beaucoup de textes de Brassens ou de poèmes qu'il a mis en musique, elle parle bien évidemment de l'incertitude, parce que les oiseaux de passage, ce sont les gueux, ce sont les migrants en ce moment, ce sont les gens qui sont directement touchés par la crise, peut-être pour certains plus durement que d'autres. Et voilà, elle parle de liberté, de choix, de libre arbitre, et de manière très poétique. Donc en ce sens, je pense qu'elle elle met en lumière un certain nombre de valeurs que nous essayons de défendre.
Merci Jérôme Karp, merci à vous toutes et tous, et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de ces conversations de Réor.
Merci Gabriel.
Et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possède pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garde.